Popol Talks, le podcast politique qui donne la parole aux femmes engagées.
Bonjour Véronique de Viguerie.
Salut Léa.
Si tu peux bien sûr.
Ouais, salut Léa.
On va se tutoyer.
Ouais, ok, on se tutoie.
On se connaît donc on se tutoie, il n'y a pas de problème.
Okay.
Comment ça va?
Ben, ça va bien.
Merci d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast avec moi.
Ben, avec plaisir.
Tu sais que tu es la première invitée non politique que je reçois.
Et écoute, je suis très honorée, j'espère que je serai à la hauteur.
J'en doute pas, une seconde. Pourquoi je me suis dit, tiens, je vais interviewer Véronique? Pour plein de raisons, parce que déjà, ça fait un petit moment que je suis ton travail et que j'aime beaucoup. Aussi parce que tu t'intéresses beaucoup aux femmes, et moi aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui fait qu'on a un point en commun. Et parce que je me suis dit, tiens, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller voir des gens qui n'ont pas un engagement politique partisan ou institutionnel pour essayer de comprendre comment leur engagement peut être politique? Est-ce que toi, tu as l'impression, en tant que reporter, photographe, d'être politique?
Oui, quelque part, ma démarche peut être politique parce que, par exemple, donc moi, ça fait très longtemps que je vais en Afghanistan. Ça fait presque 20 ans maintenant que j'y vais fréquemment. Là, j'y retourne dans quelques jours. Et je sais que la première fois où je suis arrivée en Afghanistan, j'avais beaucoup de préjugés, notamment sur la femme afghane. Je la voyais comme elle était représentée, une victime soumise, drapée dans son voile de pudeur, qui accepte avec beaucoup de résilience toute cette violence des hommes et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que sur place, les Afghanes, ce n'était pas du tout comme ça. Il y avait plein de femmes super fortes, il y en avait plein qui étaient engagées en politique, qui ouvraient leur bouche grand comme ça, qui ne se laissaient pas faire, qui se battaient pour leurs droits. Il y en avait qui étaient pilotes, il y en avait qui étaient au sein de l'armée. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pourquoi est-ce que j'avais cette représentation-là? Est-ce que c'est parce que les photos qui étaient faites de ces femmes afghanes avaient été faites par des hommes? Est-ce que quelque part, ce n'était pas aussi le fantasme des hommes de les représenter comme ça? En tout cas, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas la réalité. Et depuis, j'essaye vraiment, avec mes clichés, de casser ce cliché de la femme soumise.
C'est en quelle année, ça, du coup, la première fois que tu es allée en Afghanistan?
C'était en 2003.
Wow.
C'était il y a longtemps. Ouais.
Ça fait un petit moment, du coup. Bon, toi, tu as couvert notamment le départ des troupes américaines d'Afghanistan l'année dernière. Et il y a eu un très, très gros backlash sur les droits des femmes, un recul qui pouvait être attendu. Enfin, toi, tu m'avais dit, je me souviens au cours d'une conversation, que les Afghanes, en tout cas, espéraient que ça ne reviendrait jamais. Et ça a été quelque chose qui, pourtant, est revenu. C'est-à-dire la réduction de leurs droits. Finalement, on se rend compte aussi qu'en temps de guerre, les premières qui sont sacrifiées, ce sont les femmes, et là où leurs droits sont les plus amoindris. Est-ce que toi, t'as perçu ça? Est-ce que tu l'as anticipé?
Non, en fait, assez bizarrement, en août, quand les talibans ont repris l'Afghanistan, j'étais sur place et comme pas mal, je crois, j'avais un peu d'espoir. En sachant que les talibans, c'était certainement une très mauvaise nouvelle pour les femmes, mais c'était quand même une bonne nouvelle pour la paix. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça mettait quand même un point final à 20 ans de guerre. 20 ans de guerre sale, avec des victimes collatérales, avec beaucoup, et qui reprenait un pays. Ce n'était pas un pays florissant, hein, l'Afghanistan. Malgré, en dépit des milliards qui avaient été versés, des aides et tout, c'était un pays qui était déjà où il y avait la faim, la pauvreté, énormément de corruption, beaucoup manque de travail, d'où les gens déjà avaient envie de partir parce que c'était dur de vivre en Afghanistan. Et donc, quand ces talibans sont arrivés, il y a eu comme une sorte de espoir presque en se disant mais peut-être que ça va pas être si pire. Et les femmes, j'ai manifesté avec des femmes qui demandaient pas grand chose en fait, qui demandaient pas des droits hallucinants ou même pas le maintien de leurs droits, mais juste d'être prises en compte dans le gouvernement qu'allaient former les talibans, juste d'en faire partie, pas d'être oubliées, pas d'être effacées. Et elles étaient, malheureusement, elles étaient déjà pas beaucoup. Elles étaient 40, 50. Ça, c'était très triste de voir qu'elles étaient... je crois qu'il y a 20 millions de personnes en Afghanistan et il doit y en avoir quelques millions à Kaboul. De voir que sur quelques millions de personnes, seulement 40 à 50 femmes ont osé manifester au nez, à la barbe des talibans pour demander quelque chose qui paraît presque... basique, pas protégée par des hommes. Enfin bon, bref. Donc elles se sont faites à moitié tabassées, dispersées. Elles ont eu hyper peur. Voilà, c'était violent comment elles ont été arrêtées. Et finalement, ça n'a pas servi à grand chose. Qu'ils ont fait leur gouvernement, aucune femme, même pas au ministère des femmes. Je crois qu'ils l'ont même enlevé. Et en fait, tous les jours. Depuis quelque temps, là, il y a des nouveaux décrets contre les femmes. Donc, ça va être plus d'école après le sixth grade, l'obligation de se couvrir le visage. Dans certaines provinces, les femmes ne peuvent plus prendre le taxi toutes seules. Enfin, en fait, c'est un harcèlement quotidien, continu, sur les femmes.
Un harcèlement presque juridique, institutionnel.
Ouais, et puis surtout du quotidien, c'est-à-dire leur rendre la vie presque pas possible. Alors nous en Occident, on parle beaucoup de la charia et donc des lapidations. Ça existe, mais franchement, c'est ultra rare. Et ça a toujours, en fait, un peu existé en Afghanistan. Il y a toujours eu des cas... de temps en temps de lapidation, et c'est horrible et c'est affreux et c'est extrêmement violent et c'est inhumain, mais il faut pas oublier que derrière ça c'est autre chose d'un peu plus insidieux et qui est cette espèce de lourdeur et de privation de liberté les unes après les autres, mais dans la vie quotidienne, parce qu'en fait par exemple ne pas avoir le droit de prendre un taxi seul, bon, ça paraît pas énorme, mais ça veut dire tellement de choses. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller travailler. Ça veut dire que si on est malade ou si on doit amener son gosse à l'hôpital, on ne peut pas y aller. Il faut attendre que le mari revienne. Si on veut aller voir sa sœur ou sa mère parce qu'elles sont... ou parce que juste on a envie d'aller voir sa sœur et sa mère, on ne peut pas y aller. Enfin voilà, c'est tous ces trucs, tout le temps, et c'est tout le temps pour rendre la vie de la femme presque impossible, quoi.
Oui, ça c'est sûr que l'objectif, effectivement, tu parles de harcèlement, mais c'est exactement ça en fait. C'est comment cantonner la femme au foyer en quelque sorte. Comment la...
c'est même, oui, c'est au foyer et à faire, en gros, à faire des bébés. À faire des bébés et c'est tout, quoi. C'est plus que fais-toi belle et tais-toi. Et en fait, ils ont fait quelque chose d'encore plus pernicieux, c'est-à-dire que dernièrement, ils ont puni les maris des femmes dont ils considéraient les comportements, on va dire, pas corrects dans leur truc. Et du coup, les maris vont être encore plus durs avec leurs femmes parce que c'est eux qui vont être punis, vous voyez. Donc, c'est comme tout d'un coup, ils transforment les maris dans des bourreaux encore de leurs femmes en leur nom. Pour pas que... Donc, en fait, tout est fait pour, je sais pas si on peut dire disparaître la femme, mais en tout cas, que oui, ça ne soit plus qu'un ventre sur pattes et c'est tout, quoi.
Ouais, un outil de reproduction, en fait.
Un outil de reproduction et une femme de ménage pour la maison, quoi, mais c'est tout.
Là, tu y retournes dans quelques jours ?
Oui.
Et pourquoi tu y retournes ? Qu'est-ce que tu vas y faire ?
Mais justement, on retourne... Donc là, j'y vais pour Paris Match et c'est vraiment pour faire cet état des lieux de un an après, qu'est-ce qui s'est passé entre les femmes et les talibans.
Et tu as pu suivre, j'imagine que tu as des amis, si ça fait 20 ans que tu y vas. J'imagine qu'il y a des gens auxquels tu tiens, des femmes que tu as dû rencontrer et qui doivent se retrouver aujourd'hui dans des situations très dures.
Ben, en fait, c'est affreux parce que j'en ai... heureusement, il y en a quand même une grande partie qui a pu être évacuée. Et pour dire toute la vérité, au début, quand les évacuations ont commencé dans cette panique et tout ça, je me suis dit que c'était idiot, que c'était dommage en fait, que tous les gens partent, tous les gens éclairés, les gens éduqués, parce que je me suis dit, ben, du coup, le pays va être complètement laissé aux mains de gens justement qui sont, enfin, il y aura plus d'activistes, il y aura plus d'artistes, il y aura plus de politiques, il y aura plus personne en fait, plus de résistance. Et en fait là, quand je comprends pourquoi au début je me suis dit c'est idiot, il faut que vous restiez, il faut résister, il faut et en fait je comprends parce que c'est devenu, et donc il y a quelques personnes dont une jeune fille à qui je pense là, qui je l'ai pratiquement tous les jours, et c'est affreux, quoi. C'est affreux parce qu'elle, elle y a cru, elle a arrêté ses études, évidemment, puisque interdite par les talibans, donc quand ils sont arrivés, on est allé la voir, elle faisait encore les cours à ses petites sœurs pour être sûre que ses petites sœurs puissent apprendre et tout ça. Et puis après, elle s'était trouvé un boulot en tant qu'infirmière dans un hôpital. Et puis du coup, elle a dû laisser tomber son boulot. Et en fait, là, je l'ai assez souvent, elle est en panique parce qu'en fait, on a tué d'abord tous ses rêves. Et maintenant, c'est même plus que ses rêves. On a tué toute sa possibilité de... Même pas une vie rêvée, une vie juste un peu... normal, quoi, d'une jeune fille qui est éduquée, qui parle super bien anglais, qui a un peu d'ambition et qui a juste envie de vivre.
On lui a tué tous ses espoirs, en fait. Ouais. Donc la situation est effectivement très compliquée, mais tu travailles pas qu'en Afghanistan.
Non.
Récemment, tu t'es rendue aussi en Ukraine où tu t'es encore intéressée au sort des femmes.
Ouais.
Des femmes aussi qui s'engagent dans l'armée. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour ? T'as passé beaucoup de temps là-bas, t'as passé un mois de mémoire ?
J'ai passé 6 semaines presque, ouais.
Ah oui, donc ouais. Un mois et demi.
Et donc, effectivement, c'était toujours dans ce souci dire que la guerre n'est pas qu'une affaire d'hommes, qu'il y a beaucoup de femmes dans la guerre. Femmes victimes, on le sait. Mais aussi des femmes combattantes. Alors, il y a évidemment celles qui vont carrément rejoindre les rangs de l'armée, mais il y a aussi ces héroïnes du quotidien qu'on oublie trop souvent. Par exemple, quand il y a des déplacés à cause d'une guerre ou à cause d'un conflit ou à cause d'une situation, souvent, moi, ça me touche. Après, c'est un peu dur à exprimer en photo ou en texte, mais on voit souvent des mères qui vont faire en sorte de transformer leur petit coin avec des cartons ou même le sol de manière la plus cocon possible pour que leurs enfants se rendent compte de rien. Donc, je ne sais pas, en Ukraine, par exemple, j'étais vachement touchée par une maman qui vivait au milieu de 1000 autres personnes dans le métro, dans l'est du pays, parce que ça bombardait vraiment trop en haut et ça faisait depuis au moins... quand je les ai vus, ça faisait au moins 45 jours qu'ils étaient donc là-bas. Je vous ai dit 1000 personnes. Il y a des chats, il y a des chiens, il y a des cochons d'Inde, il y a des oiseaux, il y a plein d'enfants, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a tout le monde. Il y avait 3 toilettes pour les femmes, pas de douche. Et j'ai retrouvé donc cette maman. Je ne sais pas comment elle se débrouillait, mais sa fille était impeccable. Toutes les habits tout propres, des jolis trucs. Et puis elle avait décoré son endroit du métro avec beaucoup de douceur, parce que elle considérait que c'était sa responsabilité ou son devoir de faire en sorte que sa fille soit privée de moins de choses possibles à cause de cette guerre. Donc elle s'était débrouillée pour faire venir un gâteau pour son anniversaire pour que sa fille fête ses 9 ans quand même. En dépit de tout, elle avait invité les autres enfants. Voilà, cette espèce de... Ces héroïnes du quotidien qu'on oublie souvent, mais qui font que peut-être on n'a pas des générations après des conflits d'enfants qui sont complètement fucked up, quoi.
pour c'est marrant parce qu'en fait, au fur et à mesure de cet entretien, je me rends compte que tu as cette volonté très forte de visibiliser des femmes qui font des choses qui sont considérées comme des choses qui reviennent aux hommes, c'est-à-dire s'engager dans la guerre. Quand tu parlais de partir en Afghanistan, toi, tu avais ces stéréotypes que tu as totalement déconstruits à travers notamment les travaux que tu as menés sur les femmes flics, des choses comme ça. Et j'arrive à me demander si c'est pas un peu ton histoire à toi. Parce que toi, tu fais un métier qui n'est pas un métier évident pour une femme. Comment toi, tu t'es déjà lancée dans ce métier de photoreporter, qui est un métier qui est quand même essentiellement dominé par les hommes. Mm-hmm. Et comment tu t'es projetée dans ce métier et comment tu le vis aussi au quotidien ?
Tu as un petit peu raison sur plein de trucs. C'est que moi, j'ai dû naître à peu près comme ça, mais je déteste qu'on assume directement que parce qu'on est une fille, on peut pas faire certaines choses ou qu'on peut le faire moins bien ou que du coup, enfin, ça m'a toujours super énervée parce que j'ai jamais trop compris en fait. Et je me souviens que j'étais dans une école en Angleterre et j'avais vraiment envie de faire du photojournalisme. Et mon prof me dit, écoute, j'ai un bon pote à l'AFP, on va l'appeler et tu vas lui demander des petits trucs, tu vois, s'il a des petits conseils à te donner. Donc on appelle ce monsieur de l'AFP qui me dit, mais de manière violente, « Non, mais écoutez, mademoiselle, laissez tomber, j'ai des très bons amis, très très bons photographes qui n'en vivent plus, c'est mort. » Et je crois qu'il me dit un petit truc genre, je sais pas moi, mettez-vous à quelque chose qui je sais pas, à la cuisine par exemple. Je raccroche. J'avais les boules, mais les boules, vraiment, j'étais... Et pendant, je pense, 2 jours, j'étais complètement déprimée parce que cette espèce de monsieur-là m'avait coupé les ailes. Et finalement, au bout de 2 jours, je me suis dit, mais en fait, c'est un vieux con et je vais lui prouver qu'il a tort. Et je crois que pour moi, c'est un espèce de moteur, quoi. Quand on me dit non, et en plus non, en gros, parce que t'es une fille... Et je me dis, mais carrément, mais oui, avec des ailes, parce que ça me. Parce que j'ai envie de prouver qu'ils ont tort et que c'est faux et qu'on peut faire pareil qu'eux, peut-être mieux qu'eux sur certains trucs. Moi, je ne suis pas dans un combat avec les hommes, hein, je suis dans du vivre ensemble, mais du vivre ensemble de manière égalitaire, quoi.
Est-ce que. Tu t'es posé la question quand même, bon, on a compris qu'effectivement c'était une motivation très forte, ça te tient aux tripes ce métier, c'est assez évident. Mais est-ce que dans certaines situations tu t'es dit, clairement je suis désavantagée ou peut-être dans une situation d'insécurité parce que je suis une femme ?
Bah, évidemment que quand on est une femme, on a ce danger, la peur du viol par exemple, qui est très présente. Et donc, du coup, il faut prendre ses précautions. Par exemple, je crois que les hommes et les femmes, on a chacun nos caractéristiques qui peuvent être des avantages ou des défauts. Donc, par exemple, en Afghanistan ou dans des pays comme ça, très traditionnels, très conservateurs, être une femme, c'est... très souvent un avantage, déjà parce qu'on a un accès aux femmes, évidemment, mais en plus parce que comme on a l'air vulnérable, on ne représente jamais une menace ou un danger, et donc de la part des hommes, il y a une certaine bienveillance à notre égard parce qu'on ne fait pas peur, parce qu'ils nous considèrent fragiles, voire... Mais...
Ça, c'est pour les femmes photoreporters ou journalistes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oui, je parle bien sûr. Oui, pardon. Et pour travailler, hein, je parle vraiment je ne parle pas pour être une femme en Afghanistan, c'est cool, non. Pour travailler en Afghanistan en tant que femme. Pour l'instant, c'était comme ça. Plus, ça avait l'avantage, évidemment, de pouvoir être complètement anonyme en se cachant sous une burqa ou sous un niqab. Par contre, il y a d'autres pays où les hommes, eux, vont pouvoir peut-être plus jouer de la camaraderie et tout ça. Et nous, par exemple, les femmes, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a des pays où on va pouvoir jouer un peu de nos charmes, fragilité, vulnérabilité, mais ça risque de nous emmener sur un terrain très glissant qui va être la sexualité et du coup ça va nous, on va pas pouvoir jouer cette camaraderie dans certains cas pour ne pas se mettre dans une zone qui va être très inconfortable, très pénible, et donc là clairement ça sera un inconvénient.
Je me souviens que tu m'avais sorti une phrase qui m'avait vraiment surprise une fois. Tu m'avais dit « c'est plus facile de bosser en Afghanistan qu'en France ».
Oui, parce que en fait, pour plein de raisons, mais déjà, en France, il y a une méfiance à l'égard de ce qu'on appelle les médias qui est dingue. C'est-à-dire que les gens prennent les journalistes pour leur ennemi. J'ai fait des manifestations des Gilets jaunes, j'ai failli me faire taper parce que on nous disait oui, c'est vous les médias qui avez mis Macron au pouvoir, et vous les médias, et en plus ils mélangent tout, hein. Quand on dit médias, ça veut dire les réseaux sociaux, BFM, CNews, Fox News, Le Monde, enfin c'est tout le monde. Et c'est donc on est toujours vu comme un ennemi, donc c'est assez insupportable et assez assez désagréable. Et en plus, donc moi en France quand j'ai travaillé, c'était sur le Covid, et même les institutions nous considèrent comme des outils de communication. Donc par exemple à l'hôpital, s'ils avaient besoin de communiquer sur quelque chose, ils allaient choisir TF1 et Paris Match pour aller interviewer l'infirmière qu'ils avaient préalablement choisie et prendre la photo de ce qu'ils avaient décidé qu'ils voulaient bien montrer. Mais on n'avait pas le droit de travailler autour. Donc pareil, ça c'est de la communication. On n'est pas des outils de communication gratos pour les institutions. On est là pour faire du journalisme. Et il y a vraiment une confusion en ce moment des genres. Et par exemple, à un moment, on voulait couvrir... On était quatre, hein, journalistes, photographes à Mulhouse, qui voulions faire ça. On voulait couvrir les évacuations en train jusqu'à Bordeaux des malades du Covid. Et ben, il y avait un petit pont au-dessus de la gare sur lequel on aurait pu se mettre, les quatre d'entre nous, sans être dans les pattes des gens, à bonne distance, mais voilà. Et ben, le matin, quand on a voulu y aller, ils avaient mis des CRS... tout en camion, pour nous empêcher d'aller sur le pont. Et à se demander pourquoi. Et en fait, c'est parce que la préfecture avait choisi un photographe qui, après, pouvait donner les photos aux journaux qu'il demandait. Mais du coup, c'est genre, mais enfin, qu'est-ce qui se passe si les institutions commencent à avoir leur propre journaliste et que c'est eux qui distribuent l'information, ben je sais pas où on va, quoi. C'est
ouais,
plus
et puis y a des enjeux de financement aussi.
Ouais, et puis la liberté de la presse dans tout ça, elle est où, quoi. Donc non, moi j'ai trouvé ça presque odieux de travailler en France.
Ouais. Donc tu referais pas. Il y a aucun sujet sur lequel tu es en train de travailler qui
Mais il y a plein de sujets où j'aimerais bien travailler en France, mais ça les autorisations, savoir comment je vais être accueilli, savoir comment on va mettre des bâtons dans les roues juste pour faire mon travail et tout, ça me...
Et donc du coup, tu as le sentiment que c'est plus facile dans d'autres pays où tu as pu bosser que la France ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a d'autres pays où si on était traité comme on l'a été en France, ça ferait... mais ça ferait hurler RSF, les syndicats de journalisme et tout ça. C'est vraiment pas... Enfin, franchement, c'est pas des manières de faire. Je suis allée à une manifestation de Gilets jaunes. Et j'avais donc la première fois où j'y suis allée, je m'étais pris des bouts de bouteilles et tout. Donc la deuxième fois, je me suis dit, bah, je vais me protéger. Donc j'avais pris un casque de snowboard et des lunettes pour me protéger des gaz lacrymo. Et en fait, il y avait des barrages de policiers qui fouillaient tout le monde. Enfin, je pensais qu'ils fouillaient aussi les manifestants pour qu'ils aient pas d'armes ou de choses dangereuses et tout. Donc franchement, j'ai donné mon sac sans penser à mal, avec ma carte presse et tout. Et là, ils m'ont pris mon matériel de protection. Mais j'ai dit, moi, je suis journaliste, donc il faut... Et ils étaient là, non, mais comme ça, tu ne vas pas y aller. Je dis, ah, ben, en fait, du coup, je vais y aller, mais je ne serai pas protégée à cause de vous.
Ah ouais, c'est grave quand même.
Donc il y a quand même cette espèce de... Pourquoi, en fait quoi. On est les ennemis de tout le monde. De tout le monde.
Wow. Revenons un peu sur ta vie, sur toi, parce que j'insiste sur le fait, et je pense que ça va toucher beaucoup de personnes qui nous écoutent, sur le fait que c'est pas forcément un métier dans lequel il est facile de se projeter quand on est une femme. Je pense que c'est aussi peut-être parce qu'il manque des rôles modèles. Est-ce que toi, quand tu faisais tes études et que tu savais que c'était vraiment le métier que tu souhaitais faire, il y avait une femme photoreporter qui t'a inspirée?
Il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu plein. Il y a eu des Marie-Laure de Decker, Alexandra Boula, Catherine Leroy, il y en a eu plein. Il n'y en avait pas beaucoup non plus. Hein. Enfin voilà, il n'y en avait pas beaucoup. Et par contre, il y a souvent quand je parle avec des jeunes journalistes ou photojournalistes, des filles, elles ont très peur que maternité et ce travail puissent aller ensemble. Et là-dessus, je crois que moi, je suis la première génération où on considère qu'on a le droit d'être femme, mais dans toute sa féminité aussi. C'est-à-dire que les générations d'avant, là, celles dont je vous ai parlé, en gros, elles s'interdisaient quand même un peu d'être femme. Elles ne faisaient pas des trucs de... Enfin, voilà, il y a... C'était un point, enfin voilà, elles étaient, même si il fallait qu'elles prouvent qu'elles étaient pas des femmes, presque. Je crois que là, on est la génération où on a le droit.
Tu veux dire par rapport au code
Par rapport à, oui, au code.
Au mode de vie.
Oui, donc Marie-Laure, elle a eu deux enfants, mais voilà, après les autres, je crois qu'il y en a aucune qui était, par exemple, mère. Et ça, il y a encore vachement de travail à faire là-dessus. Le nombre de fois où j'ai entendu. Tu pars en reportage, mais qui va s'occuper de tes gosses avec une espèce de regard qui veut quand même bien dire...
jugeant.
Ouais, hein, exactement, genre que c'est pas possible, clairement, d'être une bonne mère et de faire ce métier. Que donc, si je fais ce métier, c'est sûrement que je suis une mauvaise mère.
Ah ouais, c'est assez chaud quand même.
Et ça, c'est un peu dur. J'ai même eu des photo-éditeurs, il y en a eu un là auquel je pense, pour pas le citer, quand je venais d'accoucher, enfin trois semaines après ou un mois, pour aller vendre un reportage, qui était « Mais tu n'allaites pas ?» Mais voilà.
Ce que je veux en fait.
Oui, en fait, et ça ne regarde personne. Et si je suis là et que je. Le truc, c'est que. Et surtout, ce n'est pas l'affaire de la rédaction de s'occuper de ça,
bien
en fait.
Sûr. Ouais.
Voilà. Donc, il y a quand même vraiment... Donc, ils disent, oh là là, on est chiante parce qu'on veut, on n'est jamais contente parce que si, parce que ça. Non, mais il y a quand même du progrès à faire là-dessus. C'est vraiment... Il y a quand même encore... On n'est pas en Afghanistan là-dessus, mais il y a quand même encore un peu de marge, hein, avant d'être...
Oui, ça doit pas être évident aussi peut-être pour certaines personnes de concilier ce métier avec une vie de famille. Il faut que tu aies quelqu'un qui puisse s'occuper de tes enfants quand tu n'es pas là, par exemple, quand tu pars un mois et demi là, toi, ouais. Par exemple, en Ukraine ou en Afghanistan, c'est long quand même. Et c'est pas juste prendre une babysitter pour la soirée ou un babysitter, ça s'organise quand même.
Mais j'ai vachement de chance parce que j'ai une super équipe derrière et c'est des super hommes. qui me permettent de continuer de faire ce métier. Donc les filles, elles ont un super papa. Moi, j'ai un super compagnon qui s'en occupe quand il faut et quand il peut. Et puis j'ai aussi une super maman. Enfin, j'ai plein de monde et ça, je pourrais jamais le faire si j'étais toute seule.
Oui, c'est ça. Si t'étais, par exemple, si t'avais pas ce soutien, ce serait impossible en fait.
Ouais.
Et toi, quand tu pars, tu pars dans des zones de conflit, c'est risqué. Est-ce que c'est dur pour ta famille ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur pour toi, par exemple, quand t'es partie en Ukraine et que t'étais sous les bombes quasi quotidiennement ? Est-ce que tes proches, tes parents, tes enfants
Bizarrement, quand j'étais en Ukraine, beaucoup plus que d'habitude. Parce que, surtout pour mes enfants, en fait. Parce que l'Ukraine, en fait, quand je ramène mes photos, elles les voient, hein, mes photos d'Irak, d'Afghanistan ou de je ne sais où. J'ai l'impression pour elles, comme le décor est tellement différent, c'est pas hyper concret. Et là, tout d'un coup, l'Ukraine, c'est les mêmes références, c'est les mêmes décors, c'est beaucoup moins exotique, ça ressemble vraiment à chez nous. Et du coup, pour elles, c'était beaucoup plus concret. Et je pense que pour elles, c'était la première fois, du coup, dans leur tête, que j'étais vraiment à la guerre.
Et tu penses que ça les a beaucoup inquiétées ?
Pas mal, ouais, parce que parce que elles en entendaient parler à l'école, à la radio. Et je sais que quand je suis rentrée, bah, t'as vu où j'habite, c'est un peu un kibboutz ici. Et il y a plein d'enfants qui sont dans les trucs. Et tous les petits, ils étaient là quand je suis rentrée. Ah, ça y est, ta mère est rentrée. C'est que tout d'un coup, c'était très. En fait, j'étais dans leur actualité.
Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. On parle de transmission et de génération. Toi, tu es devenue certainement un rôle modèle pour beaucoup de jeunes femmes qui ont envie d'aller sur cette. Enfin, d'embrasser une carrière telle que la tienne. Est-ce que tu pourrais leur donner des conseils, si tu avais un conseil à leur donner ?
C'est si tu veux, tu peux. Et laisse jamais personne te dire que tu peux pas ou que c'est difficile ou compliqué. Juste si tu veux, tu peux.
Une photo qui t'a beaucoup marqué, que t'as prise, si tu devais isoler une photo Bon, ça fait des années que tu fais ça, donc c'est certainement difficile de te poser cette question, mais une photo qui te marque et qui représente beaucoup ton travail et ton rapport aux autres aussi, parce que finalement, ce que tu fais, c'est être avec des gens, c'est un rapport très humain au quotidien. Tu t'insères, en fait, dans leur intimité, en quelque sorte, pour la raconter et pour dénoncer certaines choses ou visibiliser d'autres. S'il y a une photo que tu aimerais nous décrire
En fait, les photos qui marquent le plus, bizarrement, sont celles qu'on n'a pas réussi à faire ou qu'on ne fait pas. Donc, j'ai plus à avoir des photos imprimées dans la tête qui sont celles que je n'ai pas réussi à faire avec mon appareil photo et donc à imprimer pour vous. Mais oui, j'en ai une. C'est la première photo que j'ai... en tout cas, c'est celle qui me hante le plus parce que je n'ai pas pu la prendre. C'est en 2006. Et je vis en Afghanistan et il y a la nuit, il y a eu la maison a tremblé. C'était mon premier tremblement de terre. Et donc, le matin, on a appris que l'épicentre était en fait au Cachemire, au Pakistan. Donc, avec un journaliste, on est parti. Et en fait, on est arrivé donc deux jours, je pense, après le tremblement de terre. Il n'y avait pas eu encore l'armée, les routes étaient coupées, donc c'était très compliqué. Donc il y avait des morts vraiment partout et c'était horrible. Et moi, j'étais jeune photographe et j'étais complètement dépassée par ce que je voyais. Et à un moment, j'ai vu, on était en voiture et j'ai vu un homme passé, et cet homme avait sur son épaule un sac de jute, quoi, dont dépassaient deux petites jambes. Et sur son autre épaule, il portait une petite fille, genre 4 ans, morte. Et en fait, il allait les enterrer sur un espèce de rond-point qui était là, où il y avait tellement... Et ben là... je suis sortie de la voiture pour prendre cette photo et au moment où j'ai voulu lever mon appareil, il pesait 3000 tonnes. Quoi. J'ai pas pu. J'étais complètement paralysée par l'émotion, la vision d'horreur. Ouais, c'est plus des photos comme ça.
Tu as employé un mot très très fort pour décrire cette photo. Tu as dit qu'elle te hantait. Dans ton quotidien, dans le travail que tu fais, il y a beaucoup de choses terribles que tu vois, qui sont très violentes, très dures, et des choses que n'importe quel humain ne voit pas quand même. J'imagine que ça doit créer quand même un certain nombre de traumatismes. Comment toi, tu arrives à surpasser ça ? Parce que ça, c'est une question qu'on aborde souvent avec les photoreporters, notamment qui vont dans des zones de guerre. L'aspect psychologique et le trauma sur lequel peut aboutir ce type de métier. Comment toi, tu gères ?
Bon, en fait, moi, il y a vraiment un avant et un après mes filles. C'est-à-dire que maintenant que j'ai des enfants, je n'ai pas le luxe d'avoir un espèce de sas de décompression quand je rentre d'un pays qui a été un peu compliqué et tout ça, parce qu'elles n'en ont rien à faire. Je rentre, déjà, j'étais pas là pendant les 2 semaines avant. Et ça serait hyper injuste de ma part, en plus, de pas avoir été là et de rentrer et de leur dire, écoutez, maman, elle est pas très bien. Donc non, j'ai pas à leur faire payer 2 fois mon métier. J'ai décidé de faire ce métier, je décide de le continuer alors que j'étais maman. Donc, je leur dois de revenir et en forme et en disant que j'ai fait que voilà que elles voient que si en plus elles voient que je fais un métier qui les prive de ma présence et que en plus ça me rend malheureuse, voilà. Avant, justement, j'avais un peu plus besoin de ce moment un peu de un petit sas de décompression parce qu'en fait c'est quand même 2 réalités qui s'affrontent hein, quand on rentre. Mais je pense que là, pour le coup, c'est un avantage d'être une femme. En tout cas, moi, je travaille souvent en équipe avec des journalistes femmes. Et je crois qu'on parle beaucoup plus que les mecs. Et je pense que ça nous aide quand même à digérer. Et le fait de pouvoir partir avec des copines, parce que c'est ça, je pars avec des copines, ça permet aussi, je sais pas, 3-4 jours après, on en a un peu gros sur la patate. Bon, ben viens... On va boire des coups, fumer des clopes, et ça fait digérer. Et ensuite, je crois que j'ai aussi compris que en fait, personne ne me demande de rentrer exactement comme je suis partie, et qu'il faut accepter le fait que parfois, on va rentrer avec pas exactement comme on est parti, parfois avec un peu des fantômes dans nos valises. Mais que ça fait partie du métier, des risques du métier. Et on parle souvent des traumatismes, mais en vrai, dans les conflits, malheureusement, on ne peut pas trop leur apporter, mais parce que ce n'est pas pour ça qu'on est parti, mais on voit des choses hyper belles aussi. Des choses qui redonnent foi en l'humanité. Hein. Ça fait un petit équilibre, mais après, voilà, c'est un peu comme... C'est comme un pompier quand il part éteindre le feu d'une maison, il sait qu'il va peut-être rentrer avec des brûlures, mais bon, c'est accepté, quoi. Ben nous, c'est pareil, je pense. Et puis ça fait ce qu'on est. Il faut l'accepter, en parler. Et puis, voilà.
Merci beaucoup, Véronique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, merci, Léa. Non, je crois pas.
Super. Eh ben, écoute, génial. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et bon séjour en Afghanistan, alors.
Merci beaucoup, Léa.
Tu vas nous rapporter des belles photos.
Inch'Allah.
Salut.